Si on regarde dans l'évangile de Saint-Luc, le récit de la tentation de Jésus vient au quatrième chapitre, c'est-à-dire qu'avant, il y a eu tous les récits de la nativité, des mages, avec l'annonciation, la visitation, bien sûr, et puis les récits de l'enfance de Jésus, qui nous conduisent au baptême de Jésus. Et entre le baptême et la tentation au désert, alors qu'il est dit dans Saint Matthieu, par exemple, que Jésus part au désert immédiatement après son baptême, eh bien Saint Luc intercale la généalogie. Saint Matthieu commence son évangile avec la généalogie de Jésus, donc engendra, engendra, engendra. Et là, si on regarde dans une Bible, eh bien ce texte suit immédiatement la généalogie de Jésus. Ce qui veut certainement dire que Saint Luc a voulu marquer l'avènement du Fils de Dieu, celui qui avait été reconnu au baptême par l'Esprit Saint comme le Fils bien-aimé du Père, l'avènement de sa vie publique. Et cette vie publique, elle n'est pas seulement, je dirais, la vie d'un seul homme, enfin, ni même la vie du Fils de Dieu, mais elle est bien la vie du Fils de Dieu qui englobe toute notre humanité. Cette généalogie qui précède ce texte, elle signifie que Jésus nous a tous emmenés au désert avec lui et a vécu avec chacun de nous. Même si nous n'habitions pas, nous n'étions pas nés, pardon, à cette époque, il a vécu avec chacun de nous cette épreuve du désert. Cette épreuve du désert, elle le prépare en quelque sorte à ce qu'il vivra 3 ans plus tard, à ce que nous allons célébrer dans 6 semaines. Elle prépare la passion, le dernier combat que Jésus a mené contre le démon. Et c'est la première fois, d'après les évangélistes, que le démon se manifeste au Christ de façon aussi importante, mais à partir de ce jour-là, à partir de ce séjour au désert de Jésus, eh bien le démon ne le lâchera plus jusqu'au vendredi saint, jusqu'au moment où il aura le démon le plus d'emprise sur Jésus, puisqu'il fera en sorte que Jésus meure sur la croix. Alors, dans ces 3 tentations que nous avons lues, ces 3 tentations, elles regroupent en quelque sorte toutes les formes de tentation que nous pourrions avoir nous-mêmes. La tentation, disons, de la facilité, avec le miracle que le démon demande à Jésus, change ses pierres en pain pour ne plus avoir faim. La tentation du pouvoir et la tentation, eh bien, de se mettre au niveau de Dieu, de mettre Dieu à l'épreuve, c'est-à-dire de mettre Dieu au défi. Ce que nous pouvons faire, peut-être quelquefois inconsciemment, peut-être un petit peu malgré nous, mais que nous pouvons faire aussi dans notre vie de prière. Et ces 3 tentations, elles nous préparent aussi à lire le texte de la Passion dans les 4 évangiles, en particulier dans les 3 premiers, Matthieu, Marc et Luc. Parce que, si vous vous souvenez bien, au pied de la croix de Jésus, il y avait les saintes femmes, il y avait aussi les soldats romains, il y avait les chefs des prêtres, et puis proche de Jésus, il y avait les 2 larrons. Et dans les évangiles, il nous est raconté les 3 réactions des soldats, des chefs des prêtres et des larrons. Nous savons qu'il y avait un bon larron et un mauvais larron, et ce mauvais larron qui dit à Jésus, eh bien, si tu es, puisque tu es si fort, aide-moi, sauve-moi, aide-moi à descendre de cette croix. Et il l'insulte, il l'injurie. Et nous retrouvons un petit peu cette tentation, parce que Jésus a vécu aussi cela comme une tentation sur la croix, nous retrouvons cette première tentation que le diable soumet à Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. La tentation de la facilité, la tentation de demander à Dieu de nous prouver son existence, sa présence, de nous prouver son action. Ensuite, il y a les soldats romains qui se moquent, qui ricanent d'après les évangélistes, qui se moquent de Jésus et qui lui disent, puisque tu es roi, tu dois avoir des armées, demande à tes armées de venir te délivrer. Encore une chose, comme la première d'ailleurs, que Jésus aurait pu faire. Il aurait pu descendre de la croix. Après tout, il a fait des miracles plus grands que cela. Il aurait pu faire venir ses anges pour le délivrer et disperser tout ce petit monde qui se moquait de lui. Il ne l'a pas fait. Il l'a encore vécu comme une tentation. Et le diable lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'appartient et je le donne à qui je veux, si tu te prosternes devant moi. » Et puis la troisième tentation que Jésus retrouvera aussi à la croix, c'est celle de mettre Dieu à l'épreuve. Et là, c'est les chefs des prêtres qui vont dire, puisque tu es le Fils de Dieu, non pas puisque tu es roi, non pas puisque tu fais des miracles, mais puisque tu es le Fils de Dieu, eh bien, sauve-toi toi-même. Et là, le démon dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est dit, il est écrit que les anges viendront te porter. Et dans ces trois tentations, nous trouvons un point commun qui est l'arme la plus visible et la plus excellente du diable, qui est de finalement faire tourner l'homme sur lui-même. Là où le Christ répond à chaque fois par une parole de l'Écriture, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu adoreras, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Là où Jésus répond par une relation entre lui et Dieu, par un échange d'amour entre lui et Dieu, le diable tente en disant « pense à toi, pense à manger, prends du pain, pense à ce que tu pourrais avoir si tu te prosternais devant moi, pense à ce que tu pourrais faire si tu te jetais du haut de la falaise, etc. » Alors cela peut nous poser la question de notre façon de nous examiner d'ailleurs, d'abord dans notre examen de conscience, peut-être de commencer ce carême par une confession, ça fait pas de mal, et puis de le terminer par une autre confession, ça fait encore moins de mal, et de nous examiner nous-mêmes, c'est-à-dire en fonction de cette logique, on va dire, d'altérité, c'est-à-dire de nous examiner en nous disant qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour Dieu ou pour mon prochain. Non pas tellement, même si ça peut être aussi du domaine du péché et de la tentation, mais ce n'est pas comme cela que le diable nous attrape définitivement. On ne peut pas seulement se demander si j'ai été gourmand, si j'ai été, etc., etc. Ça, ce sont des péchés, on va dire, personnels, qui restent des péchés importants. Mais là où le diable nous asservit, là où il nous emprisonne, c'est quand il nous fait tourner sur nous-mêmes, quand il nous fait nous détourner des autres pour notre propre profit, qu'il soit matériel, qu'il soit intellectuel, qu'il soit de l'ordre du paraître, qu'il soit même spirituel, là où c'est quand le diable nous invite à faire, finalement, à orienter notre vie vers nous-mêmes. Ce que le Christ a parfaitement, bien sûr, mieux que personne, compris, c'est que c'est dans la confiance en Dieu et en se remettant à Dieu, il l'a vécu lui-même, même s'il en était sûr, lui, de la présence de Dieu, même s'il a vécu dans cette présence intime tout au long de sa vie et particulièrement de sa vie publique, eh bien le Christ a été tenté sur ce point au Jardin des Oliviers et le Vendredi Saint, jusqu'à ce cri qu'il a poussé du haut de la croix, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce n'était pas de la figuration, c'est qu'il a bien senti, il a bien vécu ce sentiment de désespoir, ce sentiment d'abandon, dont peut-être nous avons nous-mêmes vécu à un moment ou à un autre de notre vie. Ça ne veut pas dire que le Christ a manqué de foi, ça ne veut pas dire que nous manquons aussi de foi, cela veut dire que par moment, eh bien, le diable, le tentateur, sait comment s'approcher de nous et sait trouver les mots pour nous faire perdre pied. Et le Christ lui-même, s'il n'a pas succombé à la tentation, a été vraiment au bord d'y succomber. Alors, pendant ce carême, je crois qu'il est important que nous redisions que ces 40 jours, ce n'est pas un mauvais moment à passer, ce n'est pas un moment où nous faisons des sacrifices pour plaire à Dieu, parce que les sacrifices, le seul sacrifice qui plaît à Dieu, nous dit l'Ancien Testament, c'est un cœur déchiré, c'est-à-dire un cœur contrit, un cœur qui reconnaît sa faiblesse. Le temps du carême, ce n'est pas non plus un temps où nous montrons notre force à Dieu, où nous disons, voilà, je sais faire ça, je sais me priver d'un repas, je sais prier pendant la nuit, ou quels que soient les efforts que l'on peut choisir. Le temps du carême, c'est un temps où nous revenons sur nous-mêmes, paradoxalement, pour mieux revenir à Dieu. Cela suppose de prendre le temps de s'examiner soi-même, de faire un bilan sur sa vie intérieure, sa vie ensuite de famille, sa vie professionnelle, tous les domaines que l'on peut trouver. Et puis, de demander à quel point nous sommes tournés vers Dieu. Non pas dans le sens que nous pouvons additionner les moments le temps de prière que nous faisons dans notre journée. Nous pouvons dire, voilà, je prie 2 heures par jour, très bien. Non, ce n'est pas cela. C'est très bien de prier 2 heures par jour, mais ce n'est pas cela. C'est le temps du carême, c'est un temps d'exercice, un temps où par nos sacrifices, par notre prière, par nos actes de charité, nous allons, à l'image du Christ, nous en remettre totalement entre les mains de Dieu. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Nous avons chanté cela dans le psaume tout à l'heure. Eh bien, voilà l'état d'esprit du carême. Et nos privations, qu'elles soient de l'ordre matériel ou autre, nos privations, nos sacrifices, nos prières, elles ne servent qu'à cela. Elles ne servent qu'à nous en remettre davantage, davantage encore que dans le temps ordinaire, à nous en remettre davantage entre les mains de Dieu. C'est une question de croissance dans la confiance, de croissance dans la foi et tout simplement dans notre esprit de fils et de filles de Dieu. Alors nous pouvons offrir ce carême pour notre paroisse, pour notre diocèse, pour toute l'Église. C'est un temps capital pour la vie de l'Église, un temps très important de retraite, de renouvellement spirituel intérieur. Et nous pouvons demander pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui nous sont proches ou même plus éloignés, nous pouvons demander que le Seigneur envoie les grâces propres à ce temps, grâce de discernement de nos faiblesses, grâce de contrition de nos péchés, et puis grâce d'espérance et de foi, comme il les a demandés pour lui-même au jardin des Oliviers, pour qu'il nous permette de tenir sur la durée, et qu'il nous permette surtout de découvrir dans le mystère de la passion et de la résurrection du Christ, notre propre passion, notre propre résurrection, notre propre croix, notre propre renaissance dans le cœur de Dieu au moment, enfin, au jour où nous allons fêter Pâques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.